L'heure du bilan. Pendant ces derniers mois si particuliers, une chose est sûre, on a dû mettre entre parenthèses certaines de nos activités et même remis à plus tard certaines choses parfois importantes. Et aujourd'hui, je vous propose, alors que l'on reprend nos consultations médicales, le contrôle technique de la voiture, la révision du climatiseur avant les jours chauds de l'été, je vous propose de faire un autre type de bilan. Un bilan qui est si important pour nous. Un bilan ophtalmologique. Alors les enfants, l'ophtalmologue, c'est le docteur des yeux. Et quand on va chez l'ophtalmologue, souvent il nous place devant une grille comme celle-ci, avec des lettres de l'alphabet. Certaines qui sont grosses, qu'on voit facilement, et d'autres qui sont plus petites. Certains sont déjà nerveux au fond de la salle, ou même derrière leur écran, parce qu'ils n'arrivent pas à voir la ligne du bas. C'est pas grave. Vous savez, parfois ce type de bilan, il peut être un peu désagréable, on n'a pas forcément envie d'y aller, et pourtant, ils sont si importants. Pourquoi ? Parce que si on a un problème de vue, ce bilan il nous permet de diagnostiquer ce problème, de le faire prendre en charge et ensuite d'être soigné. Donc je vous propose ce matin un bilan ophtalmologique. On va regarder ensemble dans un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, versets 22 à 38. Et je vais prier avant que l'on puisse commencer. Seigneur, donne-nous un cœur pour ta parole, une parole pour nos cœurs. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse mieux te voir, Seigneur. Amen. Dans Marc chapitre 8, on est au plein milieu de l'évangile selon Marc, qui compose 16 chapitres. C'est pas juste au milieu au nombre des chapitres, mais aussi au milieu de l'intrigue. C'est le moment culminant de toute l'histoire jusqu'à présent. Au chapitre 1, verset 1, Marc nous dit clairement quel est le but de son livre. Il nous dit que c'est le récit de, je cite, « la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Et un peu comme l'inspecteur Colombo, ça c'est une référence pour les plus anciens, qui passait à la télévision il y a nombre d'années maintenant, pré-Netflix. Et ce qui était passionnant avec l'inspecteur Colombo, laissez-moi vous expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que dès le début de l'épisode, nous en tant que spectateurs, on savait qui a été le coupable. Dès le début. Et toute l'intrigue visait à voir comment l'inspecteur Colombo, petit à petit, indice après indice, en tâtonnant, en réfléchissant, il allait découvrir ce qu'on savait déjà depuis le début. Qui était le coupable ? Marc, dans son évangile, il est bien en avance sur l'inspecteur Colombo. Il nous dit dès le début de quoi il s'agit ici. C'est l'histoire, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Vous savez, le Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, c'était un titre. La bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et pour nous, donc, lecteurs de l'évangile de Marc, quand on arrive à ce moment culminant de l'histoire, toute l'intrigue est de suivre comment est-ce que les disciples, eux, petit à petit, indice après indice, vont commencer à comprendre et voir qui est vraiment ce Jésus, le Christ. Et ce cheminement qui devient pour nous, lecteurs, aussi une image de nos propres vies. Nous tous qui cheminons spirituellement, petit à petit, indice après indice, dans les Écritures pour découvrir qui est vraiment ce Jésus. Alors les 8 premiers chapitres se concentrent un peu sur l'identité de Jésus. C'est qui ce Jésus ? On voit qu'il démontre sa puissance au travers de miracles extraordinaires et la réaction de quasi tout le monde, c'est qu'ils sont étonnés de ces miracles. Et nous, en tant que lecteurs, on est étonnés aussi. Mais on est étonnés d'une autre chose. La lenteur avec laquelle les disciples mettent pour enfin comprendre qui Jésus est vraiment. On va voir premièrement, quand on va lire la première partie de ce texte, l'aveuglement est une réalité spirituelle. Lisons ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 8, tout d'abord les versets 22 à 26. Vous êtes prêts pour un bilan ophtalmologique ? Ils arrivèrent à Bethsaïda, on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Ici c'est Jésus qui prend l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui cracha sur les yeux, berk, et lui imposa les mains, en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas au village. » Dans notre texte, au verset 22, on voit que les disciples et Jésus arrivent dans cette ville de Bethsaïda. Jésus rencontre un aveugle, l'amène au dehors du village, le guérit en lui et lui dit ensuite « Vois-tu quelque chose ?» Et là, c'est le miracle. Oui, cet homme qui était aveugle, enfin, voit. Miracle ! Ne crions pas victoire trop vite. Il voit, mais chose extrêmement bizarre, nous dit Marc, cet aveugle voit, mais il voit pas tout à fait clair encore. Je vois des hommes comme des arbres, mais qui marchent. C'est plutôt positif déjà, mais c'est encore un peu flou comme vision. C'est bizarre, non ? Pourquoi Jésus s'y reprend deux fois ? Est-ce qu'il s'est loupé la première fois ? Parce que les huit premiers chapitres, il s'est jamais loupé. Il est peut-être fatigué là, de faire tant de miracles, non ? Ou est-ce que cet homme, il manquait peut-être de foi ? Vous savez, il manquait de foi, alors du coup, Jésus a dû se reprendre une deuxième fois, qui gonfle un peu sa foi pour enfin être guéri. Non. Pour bien comprendre ce miracle, eh ben, il faut regarder l'épisode juste avant. Laissez-moi vous en faire le teaser. C'est pas le premier miracle un peu bizarre que fait Jésus ici. Au chapitre 7, juste avant, verset 31, on amène un homme qui est sourd et muet. On l'amène à Jésus. Jésus le prend à l'écart du village. Ah, un peu comme notre aveugle. Il utilise aussi sa salive pour le guérir. Un peu aussi comme l'aveugle. Bizarre. Et il lui dit, en touchant ses oreilles, il dit à ses oreilles, « Ouvre-toi. » Et les oreilles de cet homme se sont ouvertes. Deux miracles. Un sourd, un aveugle. Un sourd qui entend, un aveugle qui voit. Et entre ces deux miracles, alors que pourtant les indices et les preuves de la divinité de Jésus, elles s'accumulent, que même les non-juifs au chapitre 7 commencent à voir qui est Jésus, les plus proches, les 12 disciples, ceux qui vivent 24 heures sur 24 avec eux depuis le début, eux, ils semblent sourds et aveugles. Devant qui Jésus est vraiment. Au point où, au verset 17, juste avant notre texte, voici ce que Jésus dit aux disciples. Je cite, « Ne comprenez-vous pas encore ? Ne saisissez-vous pas ? Êtes-vous donc obtus ? Écoutez, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas encore. » Les disciples sont spirituellement sourds et aveugles. Ils ont beau entendre, et voir, ils ne comprennent pas encore qui est vraiment Jésus, car leur cœur est endurci. C'est un aveuglement coupable. Et c'est à ce moment-là de l'histoire, après ces paroles fortes de Jésus, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, qu'on a, comme par hasard, cette histoire d'un aveugle guéri par Jésus. C'est pas un hasard. Vous le verrez d'ailleurs la semaine prochaine dans le message de Samuel Ramos sur le passage du Marc chapitre 10 où il y a un autre aveugle qui est guéri. Quand Jésus ici guérit cet aveugle en deux étapes, il préfigure ce qui va se passer juste après. Les disciples aveugles, comme cet homme aveugle, vont commencer à voir qui est Jésus, mais pas encore distinctement. Il faudra encore attendre un peu. Il y a bien pire, vous savez, que la cécité physique. Il y a l'aveuglement spirituel. Sommes-nous conscients ? Sommes-nous vraiment conscients de ce danger ? Ou sommes-nous tellement aveuglés qu'on ne se sent pas concernés ? C'est ça l'aveuglement spirituel. Les disciples, ils étaient là, ils étaient dans le cercle VIP de Jésus, ils le connaissaient, nous on voit qui il est. Ne pensons pas que nous soyons immunisés face à cet aveuglement. Nous avons besoin, nous aussi, que Jésus touche nos vies, qu'il ouvre nos yeux, pour qu'on puisse comprendre qui il est vraiment. L'aveuglement est une réalité spirituelle. Deuxièmement, les disciples commencent à voir. Lisons ensemble versets 27 à 30. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, il pose encore une question, au dire des disciples, des gens, pardon, qui suis-je ? Ils leur dirent pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je ?» Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua, les reprit, pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Après avoir guéri cet aveugle en deux fois, Jésus prend ses disciples et marche sur le chemin. Nouvelle étape dans le parcours de Jésus. Sur ce chemin vers Jérusalem sera le moment et l'endroit privilégié où Jésus va enseigner en privé ses disciples. Un chemin sur lequel ils vont cheminer intérieurement, et j'espère nous aussi. Jésus leur pose cette question. Au dire des gens, qui suis-je? Alors pour les uns, Jean le baptiseur, le baptiste là, que Hérode a mis à mort, peut-être il est ressuscité. C'est ce qu'Hérode pense au chapitre 6. Pour d'autres, Jésus, il est peut-être Élie, ce grand prophète de l'Ancien Testament, dont le retour marquera le début de la fin des temps et la gloire de Dieu à venir. Peut-être que c'est Élie. D'autres, peut-être pour d'autres, c'est l'un des prophètes. Beaucoup semblaient donc d'accord ici pour dire que Jésus était quelqu'un d'important, une personne à part qui jouait un rôle spirituel important dans la vie du peuple. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils avaient la bonne compréhension de qui était Jésus. Parce qu'il y a une énorme différence entre penser que Jésus est une bonne personne morale, un bon philosophe, et penser qu'il est le Christ. Et Marc va nous le montrer dans ce texte, parce que les disciples eux-mêmes ont besoin de le comprendre. Jésus ne s'arrête donc pas à cette question générale pour les autres, et il pose aux disciples une question personnelle. Regardez, et pour vous, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? C'est la pédagogie de Jésus, vous savez. Ici, il fait quelque chose que les rabbins de l'époque ne faisaient guère. C'était les disciples qui posaient des questions au maître. Ici, c'est le maître qui pose des questions aux disciples pour les faire cheminer sur ce chemin. Et alors qu'à la question générale, tout le monde répond d'un seul cœur, d'une seule voix, comme dans une conversation sympathique entre amis, là, seul Pierre s'ose à donner une réponse. Vous savez comment c'est facile de donner une réponse à la question générale et quand on parle des autres, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Combien c'est difficile quand la question devient personnelle, n'est-ce pas? C'est facile de réciter la confession de foi d'une église. Ah oui, Jésus ceci, cela. Mais quand la question devient personnelle, on ne peut plus se cacher derrière l'opinion des autres. Et pour vous, qui suis-je? Comme s'il posait la même question qu'à l'aveugle. Vois-tu quelque chose? Les disciples, voyez-vous quelque chose? Quand vous voyez quoi? Pour vous, qui suis-je? Frère André, le fondateur du ministère Porte Ouverte, disait ceci. Le courage de vous poser des questions changera votre vie. C'est effectivement une question qui peut changer votre vie. Elle a changé la mienne. D'après toi, qui est Jésus? Pas juste d'après ce que l'Église dit. Qu'est-ce que tes parents disent, ta famille disent, ton conjoint disent, tes amis, les pasteurs, les prédicateurs. Pas juste ce que Google dit de Jésus. Pas juste ce que les sites pro-christianisme, anti-christianisme disent de Jésus. La question est personnelle pour toi. Pour toi. D'après toi, qui est Jésus? Est-ce que tu t'es déjà sincèrement posé la question une fois dans ta vie? As-tu exploré par toi-même les évangiles comme celui de Marc pour regarder qui est vraiment ce Jésus et avoir une réponse éclairée? Le courage de te poser cette question peut changer ta vie. Alors face à cette question, les disciples restent silencieux. Et un peu comme à l'école, vous savez, quand il y a une question difficile, Pierre a levé la main. On est un peu tranquille. Et voilà Pierre qui répond avec bravoure. Toi, tu es le Christ. Le Christ! Oui, Pierre, enfin! Depuis la première seconde du premier épisode de la première saison de Marc, chapitre 1, verset 1, on attendait impatiemment qu'un disciple puisse dire ce mot. Tu es le Christ! Pierre commence à voir, miracle, comme cet aveugle qui enfin voit. Il ne voit que partiellement, comme des arbres qui marchent. Jésus, chose surprenante ensuite, reprend les disciples, il les rabroue, c'est un bon mot à apprendre pour les jeunes ça. il les rabroue, il les réprimande. Je le cite parce qu'on le revoit trois fois dans ce texte. Pourquoi Jésus leur dit de ne rien dire? Pourquoi autant de secrets sur la vie et l'identité de Jésus? Ce n'était justement pas encore le moment de révéler pleinement son identité au monde. Car Jésus devait encore accomplir le cœur de sa mission. Sans parler des disciples, comment auraient-ils partagé un message dont ils n'en connaissaient que la moitié? L'aveuglement est une réalité spirituelle. Les disciples commencent à voir, mais ils ne voient que partiellement. Regardez les versets 31 à 33. Jésus commença alors, c'est bizarre, chapitre 8, il commence quelque chose. Il commence alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève trois jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» lui dit-il. « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Basé sur cette confession de Pierre, Jésus commence à leur apprendre, à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre et meure et ressuscite. Et il leur disait cela ouvertement. La réaction de Pierre à cet enseignement est plus que surprenante. On est même choqué. Il prend Jésus à part, il le rabroue, il le reprend, il le réprimande. Le disciple prend à part le maître et le reprend. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, tu voyais enfin! Écoutez, si Pierre se permet ici de reprendre ainsi le maître, c'est qu'il doit quand même avoir une bonne raison, n'est-ce pas? Il doit se croire dans son bon droit. Jésus vient de dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre et meure. Et ça semble pour Pierre une erreur théologique, une erreur biblique énorme, au point où il prend Jésus à part et lui dit « Mais tu débloques, et n'importe quoi là !» Alors qui est le Fils de l'homme? Quelle était peut-être l'idée que Pierre s'en faisait pour penser que c'était impensable que ce Fils de l'homme souffre et meure? Eh bien, on retrouve cette expression « Fils de l'homme » dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, chapitre 7. Et c'est certainement l'idée que Pierre avait en tête, que les personnes du 1er siècle à son époque avaient en tête en entendant cette expression « Fils de l'homme ». Laissez-moi vous le lire. « Je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblerait à un Fils de l'homme. On lui donnera la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations, les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas, son royaume ne sera jamais détruit. » Voilà ce que Pierre avait en tête quand il entendait « Fils de l'homme ». Cette expression que Jésus utilisait un peu énigmatique pour parler de lui. Quand il dit « Tu es le Christ », il pense ici au Messie glorieux, au roi qui vient nous délivrer, qui est écrit ici dans ce livre de Daniel. Et cette vision est vraie. Oui, Jésus est le roi qui vient délivrer son peuple. Il est le Tout-Puissant. Il viendra avec puissance, oui, dans les nuées du ciel. Oui, son royaume n'aura pas de fin. Cette vision glorieuse est vraie. Mais à ce moment-là de l'histoire du salut, cette vision est incomplète. Car elle oublie une partie si importante de l'identité et de la mission du Christ. Après avoir été repris par Pierre, Jésus retourne verset 33. Il regarde ses disciples, les 12, parce qu'il sait que c'est pas juste Pierre qui est concerné, mais les 12 aussi doivent l'entendre. Il reprend Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Ouch. Et Jésus leur enseigne, « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué, qu'il ressuscite. » Il leur enseigne, « La croix n'était pas le plan B de Dieu. La souffrance et la mort du roi des cieux sur une croix comme un brigand n'était que le plan A depuis le départ. Il fallait... Il était nécessaire que le Christ souffre. Dire l'opposé, selon Jésus, c'est penser comme Satan, une pensée humaine, mais non celle de Dieu. L'aveuglement est une réalité spirituelle. Les disciples commencent à voir, mais pas encore complètement. Quelles sont les implications pour la vie de ces disciples et de nous aujourd'hui? Verset 34. Puis il appela la foule. Avec ses disciples, et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez ce tableau ici ? Cette couronne de roi, étincelante, glorieuse et puissante, était la vision qu'avaient les disciples. C'était miraculeux. Seul Jésus pouvait ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient, oui, il est ce roi glorieux qui vient. Mais selon Jésus, il fallait que le Fils de l'homme souffre. Vous voyez, il n'avait en fait qu'une seule partie du tableau. Et voilà le tableau entier. Le roi glorieux est d'abord le roi qui a revêtu sa couronne d'épines, souffert, qui a souffert et qui est mort pour nous. Pour savoir pourquoi il devait faire ça, pourquoi c'était nécessaire, pourquoi il le fallait, qu'est-ce qu'il est venu faire sur ce bois de Golgotha comme un brillant, qui était le roi des cieux. Revenez la semaine prochaine. Ou écoutez le podcast. Parce que ici, ça ne serait pas être fidèle à ce texte que de sauter tout de suite à la réponse. Marc nous fait mariner parce que les disciples cheminent, nous aussi on a besoin de temps pour cheminer. On a besoin de comprendre d'abord que d'avoir une mauvaise compréhension de qui est Jésus va avoir des conséquences dramatiques dans notre vie de disciple. On a besoin d'être conscient de ça avant de savoir la réponse entière. Ne vous inquiétez pas, elle arrivera la semaine prochaine. Alors quelles conséquences cette mauvaise compréhension peuvent bien avoir à venir ? Après tout, il dit déjà que tu es le Christ. Il voit déjà la couronne. Verset 34, Jésus appelle la foule. Pas juste Pierre. Pas juste ses 12 disciples. Mais la foule. Parce que ce message s'adresse à tous ceux qui, à l'époque ou encore aujourd'hui, voulaient suivre ce Jésus. Et il leur dit au verset 34, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, la vision que les disciples ont de Jésus va déterminer la manière dont ils vont le suivre. Ta vision de qui est Jésus va déterminer ta vision de la vie d'un disciple. C'est quoi être un disciple? Si tu ne vois que le Messie glorieux, oula, pardon, puissant, tu vas penser que la vie de disciple n'est que gloire et victoire. Si tu vois les deux images du tableau, tu vois le Sauveur souffrant avant la gloire, tu comprendras que le chemin de la vie de disciple est parsemé de souffrances dans l'attente de la gloire éternelle aux côtés de Jésus le Roi. Car Jésus, en quelque sorte, nous dit tel maître, tel disciple. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. La parole est radicale, mes amis. C'est pas comme aujourd'hui, on dit, oui, je vais prendre ma croix, je te donne le dernier morceau de chocolat, c'est ma béa de la journée, j'ai pris ma croix aujourd'hui. Non. À l'époque, c'était plus, vous savez, comme si on disait aujourd'hui, vas-y, assieds-toi sur la chaise électrique. Sauf qu'il n'y a pas de sédatif et pas d'antidouleur. Le brigand qui t'a arrêté devait prendre une partie de sa croix, marcher en procession jusqu'à l'endroit d'exécution en dehors de la ville, moquer, injurier, cracher dessus, fouetter par la foule et les gardes. Comment Jésus peut-il prendre cette image pour la vie d'un disciple? Quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à sa vie. Il n'est pas en train de dire sa vie spirituelle, sa vie. Non, Jésus ne nous invite pas, vous savez, à l'accueillir comme quelqu'un qui marcherait à nos côtés simplement pour nous aider dans la vie, dans nos projets, dans nos ambitions, pour nous délivrer des géants de nos vies, ou nous amener un plus à notre vie. À moins que vous ne voyiez que cette image. Comme sur le terrain de football où mes amis qui sont pas chrétiens et me demandent presque sérieusement quand enfin je marque un but. Il me demande, Paul, t'as prié avant? Parce que pour eux, si on suit Jésus, c'est forcément qu'il va améliorer notre vie et amener un plus. Ça doit bien ça être le cœur de la foi. Ou bien quand j'ai passé un oral de concours et que je suis tombé, j'avoue, sur un sujet facile et qu'à la sortie de l'examen, quand mes amis me demandent quel était le sujet, ils me disent, ah mais Paul, c'est de la triche, il a Jésus avec lui. comme si Jésus était là simplement pour améliorer mes études. Écoutez-moi, que mes amis qui ne connaissent pas Jésus, ils ne le connaissent pas. S'ils pensent ça, je comprends. Ça m'attriste, mais je le comprends. Mais que nous, disciples, nous soyons aveuglés à ce point, c'est très Dieu relégué à la case de distributeurs de friandises, de bénédictions matérielles et émotionnelles qui marchent à nos côtés pour nous apporter une vie meilleure maintenant, pour nous suivre partout où on va. Comme si Jésus devait nous suivre. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus nous invite à le suivre lui. Et c'est sur le chemin de la croix qu'il nous invite à le suivre. Et c'est sur le chemin de la croix qu'il commence à enseigner ces vérités-là à ses disciples. Pas dans les 8 chapitres où il y avait beaucoup de miracles. Dans ces 8 chapitres-là, qui viennent, ils vont culminer sur cette croix d'un brigand. Vous voyez, il y a un danger encore aujourd'hui des faux évangiles, pas juste à l'époque des disciples. Je vous en partage deux qui se trouvent dans l'évangile selon Marc. Le premier, dans les chapitres précédents, on voit le faux évangile du renoncement, de ce reniement, pour les mauvaises raisons. Les responsables religieux, qui s'appellent les pharisiens, ils renoncent à beaucoup de choses. D'ailleurs, ils reprennent même les disciples parce qu'ils ne semblent pas renoncer à toutes ces choses. Sauf qu'ils renoncent pour les mauvaises raisons. Ils renoncent pourquoi ? Pour se sentir peut-être bien, pour avoir une place dans le cercle religieux restreint. Attention, car ce levain peut nous aveugler, hein, au point où on ne s'en sent pas concerné par ce légalisme-là. Et il y a un faux évangile qu'on voit ici dans ce texte. Le faux évangile sans renoncement. On a déjà vu un peu parce qu'il y avait le roi Hérode. Il aimait écouter Jean-Baptiste. Il kiffait ses prédications. Il serait venu tous les dimanches, je vous assure, relisez dans Marc. Il serait venu tous les dimanches l'écouter. Il prenait plaisir à l'écouter. Sauf qu'il ne voulait pas renoncer à son style de vie pour suivre Jésus. Et sans, à force de ne pas choisir, il a choisi. Ne pas choisir, c'est choisir. Alors des fois, on appelle ce faux évangile dans nos milieux d'église l'évangile de la prospérité, vous savez. Tu donnes 100 euros dans la quête, dans l'offrande, et puis Dieu il va te donner 1000 euros dans ton compte en banque la semaine prochaine. Mais souvent dans nos milieux, on en parle, et c'est bien de parler de ce danger parce que c'est un faux évangile. Mais on se dit, oui, on n'est pas bête. Si on le savait, ça marche pas comme ça. On donnerait plus si on le savait, si c'était ça. Lol. Par contre, on tombe dans une autre variante de ce faux évangile, sans renoncement, qui ressemble étrangement à celui des disciples ici. Et dans les chapitres suivants, où ils pensent qu'à leur pomme, à leur développement de carrière. Le faux évangile du bien-être. Une partie de vrai. Une partie de vrai. Assez de vrai pour nous aveugler. Et par contre, un poison derrière, parce qu'il manque l'essentiel. Suis Jésus, tu seras en paix chaque jour. Suis Jésus, tes relations vont s'épanouir. Tu auras la guérison émotionnelle. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu feras ton plein potentiel. Tu feras des grandes choses, car le meilleur est devant nous. Le problème n'est pas toujours dans ce qui est dit. Pierre a dit, tu es le Christ. Bonne réponse. Et dans la conception derrière, et dans ce qui n'est pas dit. Oui, tu suis Jésus, tu pourras goûter à sa paix qui dépasse toute intelligence. Mais ce ne t'exemple pas d'épreuve. Il ne veut pas non plus rester en paix face à ton péché. Suis Jésus, tes relations vont s'épanouir. J'espère qu'en puisant dans le pardon de Dieu, qu'en puisant dans son amour, il va nous transformer pour qu'on aime les autres. Mais ça ne te garantit pas un mariage sans échec. Suis Jésus, tu auras la guérison émotionnelle. Oui, la joie du salut est une réalité. Et on est appelé à y goûter. Mais un chrétien qui vit dans des moments de dépression et choisit de suivre Jésus sur le chemin, quelle belle louange au Seigneur. Quelle belle louange. Il a compris que la gloire n'était pas encore là. Et dans les ténèbres, il choisit de le suivre, lui, et de s'attacher à sa grâce. C'est peut-être même les louanges les plus sincères et profondes. Suis Jésus, tu auras ce que ton cœur désire. Oui, si tu désires ce que Jésus désire. Suis Jésus, tu auras ton plein potentiel. Le meilleur sera devant nous. Oui, le meilleur est devant nous. Et pas forcément tout de suite. pas forcément sur cette terre. Alors pourquoi ce faux évangile est si dangereux? Car s'il comporte une partie de vrai, il a beaucoup de choses qui manquent. Et ça peut provoquer des dégâts énormes. Laissez-moi aller un peu plus loin dans l'illustration pour qu'on prenne vraiment conscience. On ne se sent tellement pas concerné par ces faux évangiles. Mais quand tu dis à un frère ou une sœur qui vient de passer un entretien d'embauche et qui l'a raté, depuis la cinquième fois, t'inquiète pas, mon frère, Dieu, il a prévu mieux pour toi, un meilleur poste pour toi. Ou quand quelqu'un que vous connaissez, déjà, c'est pas utile, demandez à ces personnes est-ce que ça a été un encouragement pour eux, non. Je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui vient de rompre une relation amoureuse par des fiançailles, peut-être même avec une divorce. Mais Dieu a prévu mieux pour toi, un meilleur conjoint pour toi. Après tout, sous-entendu, Dieu est là au service de mon bien-être. Mon bien-être terrestre, maintenant, tout de suite, ici-bas. Ça paraît inoffensif. Peut-être pour certains, ça paraît naïf. Mais ça peut devenir tragique. Que dites-vous face à mon ami, un chrétien engagé, qui a perdu sa femme après 2 ans de mariage, à 26 ans? Que dites-vous face à ce couple d'amis, chrétiens engagés, qui vient de perdre leur enfant tant désiré après 10 ans de combat, face à la stérilité, qui l'ont enterré pendant le confinement, avec leurs amis derrière leur écran, sans qu'on puisse venir les prendre dans leurs bras? Que dites-vous face à cette personne qui se fait moquer par ses amis et sa famille parce qu'elle a décidé de suivre Jésus? Tu seras en paix chaque jour. Les relations vont s'épanouir. Tu auras un meilleur travail, un meilleur conjoint, un meilleur tout, un meilleur... Si. Face aux tempêtes de la vie, relisez Marc chapitre 4, la parabole du semeur chez vous. Face aux tempêtes de la vie, le faux évangile, il ne tient pas. Il laisse les personnes dans des désillusions. Et pire, il les laisse sans une foi suffisamment enracinée en Jésus pour pouvoir le suivre sur ce chemin de la croix. Malheureusement, il n'est pas étonnant que certains se détournent de Jésus quand les épreuves arrivent, car on leur a servi un faux évangile du bien-être, un cadeau empoisonné. Si c'est cela, suivre Jésus, vous me direz peut-être, à quoi bon? Pourquoi quelqu'un voudrait encore le suivre aujourd'hui? Terminons en lisant les versets 35 à 38. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais, quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie, de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si je vous pose cette question, vous avez le choix, maintenant, aujourd'hui, tout va bien dans votre vie, vous êtes super heureux, d'accord? Vous avez le choix là, sauver sa vie ou la perdre, qu'est-ce que vous choisissez? Si tout va bien encore dans votre vie, on va dire, je la sauve. C'est un brigand avec un pistolet sur la tempe, tu veux vivre? Oui. Je la sauve. Maintenant, si je vous amène l'autre partie de l'équation que Jésus nous donne. On peut sauver sa vie maintenant, la perdre pour l'éternité, ou la perdre maintenant et la sauver pour l'éternité. Ça devrait changer un peu la donne. En quelque sorte, est-ce que je veux sauver ma vie maintenant? Est-ce que je veux garder la couronne du roi sur ma tête à moi, diriger ma vie à moi, être mon Christ à moi? Si je le fais, devant Dieu, au retour du Fils de l'homme glorieux, il aura cette couronne qui scintille. Ce Christ souffrant reviendra avec cette couronne, avec les saints anges, dans la gloire du Père. Et à ce moment-là, il n'y a de place que pour un seul roi. Par amour, Jésus nous le dit en avance. Si tu veux à ce moment-là pouvoir vivre l'éternité avec lui, eh ben c'est aujourd'hui où on doit poser notre couronne à ses pieds et dire « Seigneur, tu es le Christ, je ne suis pas le roi de ma vie, tu es le roi de ma vie. Ça vaut la peine de tenir sur le chemin de la croix. D'ailleurs, les disciples, on a été un peu durs avec eux, j'admets. On est un peu comme eux, on chemine. Mais le fait qu'ils continuent à écouter Jésus, malgré ses paroles radicales, et à le suivre sur le chemin, est un signe encourageant. Ils cheminent, ils continuent à le suivre, car ce que Jésus nous offre en vaut tellement la peine. Le trésor qu'il nous offre est tellement précieux que même renoncer à sa vie entière pour le suivre est un bon calcul. C'est comme ça que dans notre société, on calcule la valeur d'une chose, non ? On en met une étiquette avec un prix. Quand Jésus ici, il dit qu'il vaut mieux renoncer sa vie pour gagner ce qu'il nous offre, ça veut donc dire que ce qui est plus précieux pour nous, notre vie, est moins précieux que le trésor qu'il nous offre. À quoi sert-il un être humain de gagner le monde s'il perd sa vie, verset 37 ? Que donnerait un homme en échange de sa vie, de son âme ? Rien. Quiconque perdra sa vie à cause de moi, à cause de Jésus, et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous verrez la semaine prochaine comment ça se passe, comment on est sauvé, qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi il le fallait. Ce que Jésus offre est bien plus précieux que notre bien-être ou notre réussite dans notre vie terrestre. Il nous invite à le suivre sur ce chemin de la croix. Que va-t-il répondre à son appel ? Aujourd'hui, que tu sois chrétien depuis 25, 30, 50 ans, que tu commences à cheminer avec Jésus ou à y réfléchir, que vas-tu répondre à son appel ? Vous savez, j'ai peut-être dit un peu fortement qu'on sert un faux évangile et qu'il provoque des dégâts, mais ce qui est fou, c'est que les personnes qui vivent peut-être dans le bien-être, ils entendent ce message, ils disent « Pouh, c'est trop dur !» Mais ceux qui peuvent vivre dans le chemin de la croix, les souffrances, ils vont être tellement encouragés parce qu'ils vont se dire « Mais le Sauveur a souffert avant la gloire. » Donc ce que je vis n'est pas normal. C'est pas normal. Ce passage de Marc doit donc nous interpeller et nous inviter à faire un bilan ophtalmologique. Premièrement, sommes-nous conscients de la réalité de l'aveuglement spirituel, de notre besoin de mieux voir et comprendre qui est Jésus comme cet aveugle, touché en deux fois et disciple? Sommes-nous prêts à nous laisser interpeller? Pourquoi pas en lisant ou relisant un évangile comme Marc avec un ami et en cheminant ensemble? Deuxièmement, quand tu vois Jésus, quelle est ta vision de lui? Quelle est ta réponse? Un jour, on sera tous face à lui, il faudra répondre à cette question. Troisièmement, est-ce que tu veux le suivre sur ce chemin de disciple, le chemin de la croix, mais fixé sur la gloire éternelle? Ta vision de qui est Jésus va déterminer ta manière de le suivre. Nourris alors ta vision de qui est Jésus. Nourris-la. Nourris-la dans les Écritures de la Bible qui nous raconte l'histoire de Jésus, de la première à la dernière page. Et encourageons-nous les uns les autres dans notre vie de disciple, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pas par des faux évangiles qui ne tiennent pas face aux épreuves de la vie, mais par la vérité de l'évangile. Comme disait Marc, la bonne nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à faire ce bilan, à rechercher à te connaître vraiment. Pardon, Seigneur, pour notre cécité spirituelle. Veuille venir dans ta grâce, toucher nos vies et ouvrir nos yeux. Veuille nous révéler qui tu es vraiment. Aide-nous à te suivre sur ce chemin du renoncement, ce chemin de la croix, rempli d'une attente ardente de la gloire à venir, de l'héritage à venir en toi. Merci pour ta grâce, ton pardon. Seigneur, nous voulons dire ce matin, je t'aime plus que ma vie. Amen.